c'est plus démocratisé qu'on pense parce que dans notre quotidien, la photonique, on l'a typiquement au bout des doigts. Donc, si on prend nos téléphones cellulaires, par exemple, juste la construction du téléphone, c'est différents types de lasers qui ont été utilisés pour découper chaque pièce qui va constituer le téléphone. Ce sont des puces à l'intérieur qui vont transférer l'information à l'intérieur du téléphone par la lumière.
Chaque année, l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise. Bonjour, très heureux que vous soyez à l'écoute du balado Les Remarquables de l'Université Laval. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique, et nous avons encore une fois une invitée extrêmement intéressante et inspirante avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Madison Rilling, lauréate du prix Jeune Diplômé 2024. Avant de commencer l'entrevue, laissez-moi vous présenter quelques-uns de ses principaux faits d'armes. Diplômée à la maîtrise et au doctorat en physique de l'Université Laval, Madison Rilling est directrice générale d'Optonic, également connue sous le nom du Pôle d'excellence en optique photonique du Québec. À ce titre, elle travaille de pair avec les différents paliers politiques, l'industrie de l'optique photonique et le milieu de la recherche afin de les mobiliser autour d'objectifs communs d'innovation, de croissance et de compétitivité. Seule Québécoise sélectionnée parmi une cohorte de 30 leaders originaires de 25 pays pour participer au programme immersif en diplomatie scientifique aux Nations Unies à Genève en 2023, elle a également été choisie comme l'une des 17 Fellows 2023-24 d'Action Canada, en plus de recevoir la distinction étoile montante de la conseillère scientifique en chef du Canada en 2022. Elle a aussi reçu en 2021 la très prestigieuse Optica Pivoting Fellowship, une bourse de 50 000 $ décernés à un ou une scientifique du domaine de l'optique en début de carrière qui souhaite contribuer par son expertise à l'amélioration de la société. Madison Rilling, bonjour!
Bonjour Jean-Sébastien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
C'est un plaisir. Je tiens à préciser que nous avons convenu avant l'entretien de nous nommer par notre prénom. Madison, très heureux de discuter avec vous aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'être lauréate du prix Jeune Diplômé de l'Université Laval?
Bien, premièrement, je pense que ça se résume à « wow », je dois dire, quel honneur. C'est toute une reconnaissance de la part de l'Université Laval et ça me fait très, très chaud au cœur d'avoir été choisie en tant que jeune diplômée. On dirait que c'est déjà si tôt dans la carrière parce que c'est vrai que tout ce que je fais dans mon quotidien, dans ma carrière, c'est toutes des choses qui me semblent très naturelles dans comment je peux avancer la science sous différentes formes. Mais aussi, je dirais que il y a une certaine prise de conscience qui vient avec recevoir des reconnaissances de cette ampleur-là, parce que c'est une fois de plus, je dirais, où que l'Université Laval me donne une certaine plateforme, un certain tremplin pour dire OK, let's go. c'est bon, qu'est-ce que tu fais, mais tu peux en faire plus. Donc, c'est aussi une forme de responsabilité pour qu'est-ce que je peux faire par la suite.
Vous êtes directrice générale d'Optonic, Madison. Parlez-nous du rôle de l'organisation et donnez-nous peut-être quelques exemples concrets de dossiers auxquels vous participez.
Oui, bien sûr. Optonic est un organisme à but non lucratif qui est mandaté par le gouvernement du Québec même pour appuyer, promouvoir et catalyser la croissance de ce qu'on appelle l'industrie optique photonique du Québec. Donc, tout d'abord, avant de dire exactement qu'est-ce qu'on fait, on peut se demander ben, pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec s'est doté d'un organisme comme ça? Le Québec, la province du Québec, à elle seule, regroupe plus de 220 entreprises dans le domaine et ça constitue environ 50 % de l'industrie photonique canadienne. Donc, l'optique photonique est non seulement une force technologique, une source d'innovation de la province, mais aussi une source importante ou un contributeur important à l'économie québécoise. Donc, on parle de plus de 3 milliards de contributions au PIB annuellement. Donc, en bref, Optonic fonctionne, je dirais, sur le principe de seul on va vite et ensemble on va loin. Par contre, je dirais que dans notre cas, c'est un peu plus quand on aide l'industrie et les partenaires de l'industrie à travailler ensemble, c'est qu'on peut aller à la fois plus vite et plus loin ensemble. Donc, notre rôle comme OBNL à l'appui de cette industrie, c'est vraiment d'être à l'écoute des enjeux, des besoins, des opportunités. Après ça, d'agir de façon structurante, donc de mobiliser, d'amener les gens à travailler ensemble dans une direction qui est commune pour éventuellement vraiment améliorer l'impact, la contribution technologique, la contribution économique qu'on peut avoir pour le Québec et au-delà. Mais plus concrètement, ça peut ressembler à quoi? Des dossiers, par exemple, sur lesquels on travaille, ça va être au niveau du développement de la main-d'œuvre, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on attire plus de gens vers le domaine? Comment est-ce qu'on les intègre? Comment est-ce qu'on les retient dans le sens d'un point de vue international? Donc, comment qu'on les amène au Québec et qu'on les amène dans l'industrie? Mais ça peut être aussi d'un point de vue, on va dire, le futur technologique du Québec et du Canada. En ce moment, on est en train de se positionner et d'investir beaucoup dans le futur du quantique, donc le développement des technologies quantiques, le secteur aussi des semi-conducteurs et l'industrie optique photonique a un grand rôle à jouer dans les deux. Donc nous, comme organisation, on va aller chercher c'est quoi l'expertise, c'est quoi le rôle que l'industrie peut y jouer et on va travailler avec le gouvernement pour bien aligner dans le fond les forces, bien les mettre à contribution là, pour le futur de ces domaines-là. Mais peut-être une chose que je voudrais aussi souligner qui arrive à grands pas en mai, donc le 16 mai, c'est la Journée internationale de la lumière, donc une célébration de l'utilisation de la lumière au service des objectifs de développement durable. Et le 15 mai, on va avoir à l'Assemblée nationale même un événement grand public qui s'appelle Lumière de chez nous. Donc, c'est une opportunité pour rendre très concret pour les citoyens et les citoyennes dans leur propre maison. C'est quoi la photonique? C'est quoi cette science de la lumière et comment ça se concrétise en technologie? Donc, c'est un exemple de comment on aide non seulement l'industrie même, mais comment est-ce qu'on permet à la photonique d'être plus concret, d'être plus tangible et accessible pour le grand public.
Ben justement, parlant de ça, allons-y avec des applications concrètes de l'optique photonique. Donnez-nous des exemples de ce que l'on peut faire grâce à l'optique photonique.
L'optique photonique, c'est drôle parce que la photonique, c'est la science de la lumière. Donc, quand on parle des technologies photoniques, on parle des technologies qui vont générer, qui vont manipuler ou qui vont détecter la lumière. Et c'est plus démocratisé qu'on pense parce que dans notre quotidien, la photonique, on l'a typiquement au bout des doigts. Donc, si on prend nos téléphones cellulaires, par exemple, juste la construction du téléphone, c'est différents types de lasers qui ont été utilisés pour découper chaque pièce qui va constituer le téléphone. Ce sont des puces à l'intérieur qui vont transférer l'information à l'intérieur du téléphone par la lumière. Mais c'est aussi les caméras. Donc, les caméras qu'on a à chaque nouvelle édition d'un téléphone qui va sortir, on réalise que les...
C'est toujours grandiose, on réinvente le monde chaque fois.
Exactement. les images sont de plus en plus belles. Mais c'est quelque chose de complètement... capoté parce que les lentilles sont toutes petites. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut capter toute cette lumière par de très petites lentilles. Et c'est vraiment des experts ou des expertes là, dans le domaine de la conception optique qui permettent ça. Donc, au quotidien, la photonique, on l'a littéralement entre les mains. Mais aujourd'hui, Jean-Sébastien, si on est capable de se parler, en fait, on se voit au moment qu'on se parle, tout ce transfert de données... Tout ce transfert de données, de toute cette communication qui est possible, c'est grâce à la photonique. Donc, il y a plusieurs décennies maintenant, on a commencé à transférer vers du cuivre à la fibre optique. Donc, quand on entend la transition vers belle fibre, ben c'est quoi ça? C'est qu'on est en train de transférer le son qu'on entend, les images qu'on voit au moyen de la lumière. Et ça nous permet de le faire de façon instantanée, littéralement, à la vitesse de la lumière. Donc, c'est vraiment des choses qui affectent notre quotidien, mais d'un point de vue, même dans les applications de santé, on parle de diagnostic, on parle de traitements qui sont moins invasifs, qui sont plus rapides, qui sont plus précis. Donc, toutes les technologies de la lumière, des fois, on va dire la photonique, c'est un peu comme l'électronique du 21e siècle, parce que c'est quelque chose qui nous permet de faire des choses plus rapides, qui nous permet de faire des choses de façon plus précise et dans un certain sens aussi d'un point de vue plus vert. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui va consommer moins d'énergie. Donc, on voit beaucoup de tendances là, d'aller vers des technologies photoniques exactement pour cette raison-là, parce que les questions de consommation énergétique sont évidemment très, très importantes aujourd'hui.
Très bien, merci. On comprend mieux, Madison, maintenant. Merci d'avoir vulgarisé tout ça. La région de Québec est un centre d'expertise important en optique photonique à l'échelle canadienne et nord-américaine. On peut croire que le centre d'optique photonique et laser de l'Université Laval y est pour quelque chose. Comment expliquez-vous le fait que la région de Québec est un véritable centre d'innovation dans le domaine?
C'est vraiment intéressant quand on regarde l'historique de l'optique photonique dans la région de Québec. En fait, le Centre d'optique photonique et laser à l'Université Laval a été fondé en 1989, mais l'expertise en optique photonique à l'Université Laval, du moins, date même des années 1950. Donc, c'est quand même une grande historique qui a permis de développer des connaissances fondamentales dans le domaine qui, avec les années, avec la collaboration, entre autres, industrielle, sont devenues des technologies applicatives très, très importantes. Mais dans la région, ça se limite pas seulement à l'université. Dans la région, on a aussi INO, donc l'Institut national d'optique, qui est un bassin d'expertise en optique photonique qui collabore étroitement avec l'Université Laval, mais qui a aussi essaimé plusieurs jeunes entreprises dans la région qui sont devenues maintenant des PME ou même plus, donc qui a contribué à la croissance du secteur dans la région. Mais on peut aussi penser au Centre de recherche et développement de la Défense nationale qui se trouve à Valcartier, donc juste un peu en dehors de la région et qui a plusieurs divisions qui touchent à l'optique photonique. Et en fait, c'est une source, oui, d'expertise, mais une source de financement important pour le domaine. Donc, on est en train de pousser vraiment les applications de la lumière qui est une chose que j'ai peut-être pas mentionnée avant, mais qui est très de base quand on parle de l'optique photonique, c'est que la photonique, c'est une technologie qui est habilitante. Donc, peut-être quelque chose, une technologie comme un certain laser va servir, oui, peut-être dans une application de la défense, mais avec certaines modifications, peut servir aussi en santé ou dans la fabrication avancée ou dans l'aérospatiale. Donc, c'est vraiment cette nature habilitante, cette nature transversale des technologies qui permet à l'industrie à la fois de grandir de par son service à multiples secteurs industriels. Donc, c'est un peu toute cette synergie-là dans la région qui a vraiment fait une croissance du secteur. Et c'est drôle parce que pour ma propre histoire, en fait, moi, je suis née à Québec, mais mes parents sont venus il y a, bon, un peu plus que 30 ans maintenant, juste avant que je naisse à Québec. Et mon père, c'était pour travailler chez Baumem, donc qui développait des technologies d'optique photonique qui étaient utilisées pour le spatial. Et ça, c'est quelque chose que je me suis juste rendu compte très tard dans ma vie. Donc, mais finalement, bon, on retourne à la source maintenant.
Madison, de 2016 à 2020, vous avez agi comme conseillère de la relève pour le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Vous avez ensuite siégé sur le premier conseil jeunesse de la conseillère scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, de 2020 à 2023. Maintenant, dans le cadre de vos fonctions chez Optonic, vous touchez à ce que l'on pourrait appeler la diplomatie scientifique. Quels défis avez-vous rencontrés au fil de ces expériences et comment se passe le dialogue entre la communauté scientifique et la classe politique?
Ah, ça, Jean-Sébastien, c'est très intéressant comme question, je dirais. comme toute relation, la relation entre la science et la politique a besoin d'amour et a besoin d'attention constante. En fait, parce que c'est une relation qui gagne à être nourrie et ce, au service de la société, donc au service d'un avenir qui est meilleur pour toutes et pour tous. Mais une chose qui est très importante à souligner que je réalise de plus en plus au fil du temps, c'est la différence de culture. Quand on parle de la science et la politique, ce sont deux cultures, deux mondes complètement différents. Donc, on parle de différents vocabulaires qui sont utilisés, de différentes aisances avec l'incertitude, de différentes priorités, différents sens d'urgence. Il faut des gens qui sont habilités à naviguer entre les deux réalités, mais surtout à bâtir des ponts que je dirais durables entre les deux. Au Québec, on s'en va dans la bonne direction. Donc, je peux souligner, début février 2024, Il y a eu un nouveau projet de loi qui renforce le rôle aviseur du scientifique en chef du Québec auprès du gouvernement. Et je souligne que la province de Québec est en ce moment la seule province à avoir son scientifique en chef qui est en poste depuis plus de 10 ans. Donc, il y a beaucoup d'efforts pour rapprocher les deux mondes. Donc, par exemple, récemment, l'ACFAS et les Fonds de recherche du Québec ont mis en place un programme qui s'appelle Interface, qui permet de mieux former les chercheurs, les chercheuses à agir à l'interface sciences et politiques. Donc, savoir comment faire un transfert de connaissances pour mieux informer les décideurs, les décideuses publiques avec les résultats de leurs recherches. Donc, comment on utilise la science pour informer les politiques publiques. Donc, ce genre d'initiative-là, c'est ce que j'appelle des ponts durables. Donc, comment est-ce qu'on peut rapprocher les deux? Comment est-ce qu'on peut rendre le gouvernement, la politique, plus aisé à travailler avec la science et vice-versa? Même un autre exemple, tu as mentionné plutôt la diplomatie scientifique. Donc, comment est-ce qu'on utilise la science comme un outil de diplomatie pour construire des relations entre les nations? Au Québec, on a une multiplication de postes d'attachés en science et innovation qui sont maintenant à travers différents bureaux de représentation du Québec à l'international. Donc, j'appellerais ça un peu comme des soldats de la science, là, dans le sens qu'on on utilise cette expertise, cette ressource riche qu'est la science, et on la promeut à l'international, mais on l'utilise aussi pour construire là, de super relations avec d'autres nations à l'international. Par contre, au Canada, le poste, par exemple, de la conseillère scientifique en chef du Canada n'est pas dans la loi. Donc, par exemple, s'il y a un changement de gouvernement, c'est un poste qui est beaucoup plus fragile, donc qui pourrait disparaître. Et si on retourne là dans les dernières décennies, on va voir un peu les hauts et les bas du rôle de conseiller scientifique au sein du gouvernement. Donc, c'est définitivement quelque chose qui est à pérenniser si on veut attribuer l'importance que ça doit avoir. Mais peut-être que je citerai le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Il m'a dit à multiples reprises qu'il faut être résilient. Donc, c'est la résilience qui est très importante là, dans la construction de liens entre la science et la politique. C'est très important de comprendre que la science est une dimension, un facteur parmi tant d'autres quand on prend des décisions politiques. Donc, il y a des facteurs économiques, sociaux, environnementaux, et la science fait partie du lot. Donc, des fois, c'est un peu difficile pour les scientifiques d'entendre. Là, on dit, la science, c'est la vérité, mais ça devient une dimension parmi les autres, d'où l'importance de bien savoir interagir entre ces différentes dimensions. Donc, sur plusieurs fronts, je dirais que ça va dans la bonne direction, mais je pense que tout le monde, les scientifiques, la communauté scientifique, mais aussi la communauté gouvernementale, a différents rôles à jouer pour renforcer les liens parce que, ultimement, comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment au service des citoyens, des citoyennes, et il faut les amener dans l'équation.
Vous êtes membre de plusieurs conseils d'administration et comités, Madison. Vous représentez le Canada au comité de politique publique de l'International Society of Optics and Photonics, une organisation qui compte 258 000 membres. Vous travaillez notamment avec une gagnante du prix Nobel de la physique, Donna Strickland, sur un projet qui vise à mesurer les émissions de gaz à effet de serre par détecteur photonique. Votre parcours est vraiment hallucinant. Vous me disiez dans une conversation intérieure que c'est en grande partie le sport qui vous donne de l'énergie et qui vous aide à faire tomber des barrières, à repousser vos propres limites. Parlez-nous de l'importance du sport dans votre vie, Madison.
Le sport, dans ma vie, je dirais, c'est vraiment la base de la discipline, de la motivation que j'ai dans tout ce que je fais. En fait, pour moi, il y a un côté qui est l'importance d'une vie active. Là. Je pense que c'est, pour moi, c'est vraiment...
C'est ça, d'un point de vue santé, on sait que c'est bon de bouger puis de faire du sport, absolument.
Exactement. Et faire du sport comme ça, c'est ce qui me rend une meilleure directrice générale, meilleure preneuse de décision, meilleure scientifique, même meilleure conjointe et amie, là, d'un point de vue plus personnel. Parce que, tu sais, des fois, pour être un peu cliché, c'est quand on apprend à s'occuper de soi-même, c'est quand on est plus en meilleure place pour s'occuper des autres. Et ça veut dire, oui, dans notre vie personnelle, mais dans notre vie professionnelle, mon rôle chez Optonic, c'est de servir une communauté, servir la communauté qui est celle de l'optique photonique. Mais plus récemment, dans les deux dernières années, je me suis beaucoup découverte à travers les ultras. Donc ici, je parle de les courses de longue durée, là, donc d'une distance là, qui va au-delà des marathons, mais une course qui se fait en sentier, qui se fait à travers les montagnes. Et c'est le fait de se retrouver en plein air, c'est non seulement énergisant, mais je pense que c'est aussi réparateur et ça nous permet de réaliser qu'il y a beaucoup qu'on ne peut pas juste prendre pour acquis. Donc, d'un point de vue environnemental, mais au point de vue de notre propre santé aussi. Et comme tu l'as dit au début, des fois, on assume qu'on a une certaine zone de confort ou on a certaines limites, mais des fois, on ne réalise pas jusqu'à quel point qu'on peut vraiment grandir notre zone de confort. On peut vraiment repousser les limites de ce qu'on croit être possible. Et c'est à travers la course de longue distance que je fais beaucoup de parallèles avec ma vie personnelle, avec ma vie professionnelle. Tout le monde a son propre ultra à courir, à affronter, là, et ça peut prendre toutes sortes de formes. Mais pour moi, c'est vraiment là que quand je suis dans le fin fond du bois, quand ça fait plusieurs heures que je cours, c'est là que j'en apprends beaucoup sur moi-même, sur mes limites ou comment je peux les repousser. Mais je pense que c'est aussi un signe de l'investissement, d'effort pour atteindre de gros objectifs, mais aussi qui me permet de me rendre un peu plus humble dans le sens que je peux accepter que je ne peux pas tout contrôler. Donc, quand je suis en train de courir, la nuit tombe ou les conditions ne sont pas les meilleures, c'est des fois, on ne va pas nécessairement atteindre le but qu'on avait en tête, mais chaque expérience qu'on fait, c'est aussi une expérience d'apprentissage. Donc, on peut apprendre quelque chose du chemin et non juste de la ligne d'arrivée. Donc, c'est vraiment tout ça là, qui est l'importance du sport et qui me permet, je pense, d'en apprendre évidemment sur moi, mais qui me permet de me rendre meilleur et plus utile aux autres dans les différents projets que j'entreprends.
Madison, vous vous intéressez beaucoup à la place des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, communément appelée STIM. Lors d'un entretien avec l'une de nos grandes diplômées en 2023, Chantal Gay, pour ne pas la nommer, elle mentionnait qu'Ingénieur Canada s'était fixé l'objectif d'atteindre le seuil de 30 % de femmes licenciées en ingénierie d'ici 2030. Comment fait-on pour rendre le secteur des STIM plus intéressant et attractif auprès des femmes?
Jean-Sébastien, ça, c'est une très grande question. Très, très grande question. Et je dirais peut-être une très grande réponse, là, où en fait, il y a tellement de fronts sur lesquels il faut agir pour adresser l'enjeu qu'est l'attraction, la rétention, l'intégration des femmes dans les milieux STEM, donc sciences, technologies, informatique, mathématiques. Donc, je pense qu'il faut changer peut-être l'image qu'on a. Mais il faut agir, quand j'ai dit qu'il faut agir sur plusieurs fronts, c'est que ça va de la petite enfance à l'éducation primaire, secondaire, aux études universitaires jusqu'au marché de l'emploi. Il y a une question à travers tout ce continuum-là qui est une question de représentation, les stéréotypes qu'on présente. Les modèles, comment est-ce que les jeunes filles, par exemple, s'identifient aux mathématiques, aux sciences physiques? Est-ce qu'elles se voient? Est-ce qu'elles jugent qu'elles peuvent être bonnes dans ces secteurs-là? D'un point de vue, je dirais, d'éducation, il y a beaucoup d'efforts en ce moment pour revoir l'enseignement. Donc, il y a tout cet aspect-là. Mais si on va à l'autre extrême du continuum, c'est pas juste une question de les attirer, mais une fois qu'on les attire, parce qu'on voit quand même un changement dans certaines tendances là, des programmes universitaires en sciences et génie, il y a de plus en plus de femmes, mais quand on va aller sur le marché de l'emploi, ben on a encore des enjeux en termes d'avancement de carrière. Les femmes vont typiquement occuper moins de postes de direction, vont moins avancer d'un point de vue professionnel. Donc, là aussi, c'est des enjeux, c'est encore des enjeux de représentation, mais je dirais que sur toute la ligne, il y a un enjeu de culture. Donc, il faut vraiment que ce soit les gens qui sont en position d'autorité, les gens qui sont en position de pouvoir, qui disent, nous valorisons la diversité de genre, la diversité culturelle, la diversité générationnelle, parce que ça permet une meilleure science, parce que ça permet des meilleures innovations, ça permet une meilleure créativité. Et parce qu'on valorise cette diversité, on va mettre en place des politiques, on va mettre en place des programmes, on va mettre en place des mesures de soutien pour l'avancement des femmes, pour l'inclusion des femmes. Et là, je sais que je minimise un peu en disant femmes, mais c'est vraiment là une diversité sous toutes ses formes. Mm-hmm. C'est quand on néglige une partie de cette diversité-là, on n'est pas au meilleur de ce qu'on peut offrir. C'est quelque chose qui doit être la responsabilité de toutes et de tous, je vais le souligner. Ouais. Donc, que ça soit dans les entreprises, que ça soit à la tête des universités, on a un super exemple, mais une superbe ambassadrice à la tête de l'Université Laval, Sophie Damour. Donc, mm-hmm. il fait beaucoup d'efforts et de mobilisation à cet égard-là. Donc, c'est vraiment là, en mobilisant les leaders d'aujourd'hui qu'on va vraiment permettre d'avoir une meilleure diversité et inclusion pour notre science de demain.
Je le mentionnais plus tôt, vous êtes diplômée à la maîtrise et au doctorat en physique à l'Université Laval, Madison. Comment vos études ici ont-elles contribué à la carrière que vous menez aujourd'hui?
Wow, toute la différence, en fait, c'est vraiment là. Je ne peux pas... Je pense que c'est très difficile pour moi de souligner à quel point mes études ont eu un immense impact dans la carrière que je mène, ou la carrière que je commence à mener. J'ai l'impression que je viens tout juste de sortir des murs de l'université. Mais je dois vraiment là, tout d'abord souligner mes directeurs, les professeurs Louis Archambault en physique médicale et le professeur Simon Thibault qui est du côté optique, donc en conception optique, qui ont été mes meilleurs appuis, en fait, là, pour...
Mm-hmm, des mentors.
Des mentors importants, mais aussi qui m'ont encouragé, qui m'ont appuyé pour jouer des rôles qui allaient au-delà de ma recherche. Donc, ils m'ont donné la possibilité de voir plus grand en termes de comment je pouvais contribuer à l'avancement de la science qui allait au-delà de ma recherche. Donc, justement, c'est pendant que je faisais mon doctorat que j'ai pu agir à titre de conseillère étudiante pour le scientifique en chef du Québec, que j'ai pu siéger sur le conseil d'administration des fonds de recherche du Québec, nature, technologie, que j'ai pu faire des activités de vulgarisation scientifique pour mieux promouvoir l'optique photonique. Et tout ça, c'était dans le cadre de mes études. Donc, il y a eu à la fois là une superbe compréhension, mais vraiment un appui où que mes directeurs de recherche me donnaient la liberté. Et je dirais un petit peu de façon plus large, l'Université Laval était une super plateforme pour faire des projets là, vraiment un peu flyés par moment. Là, on a fait des projets comme un projet qui s'appelait la Terrasse Optique, en fait, qui était une collaboration entre des étudiants et des étudiantes.
Avec l'école d'architecture,
exactement, c'est ça. Donc, les étudiants et étudiantes en physique avec des étudiants et étudiantes en architecture. Là, on a mis nos têtes ensemble, nos compétences complémentaires ensemble, et c'est devenu vraiment un projet là, qui a duré quelques années, qui était en fait un espace public, un espace urbain avec des expériences interactives qui permettaient au grand public de juste venir passer du temps à travers cet espace, à travers la terrasse optique, en découvrir sur des phénomènes photoniques, mais aussi sur l'importance de la photonique au sein de l'économie de la ville de Québec. Et c'est l'Université Laval a été vraiment un important collaborateur, un appui très important à ça. Donc, je pense que c'est une de mes meilleures expériences là, en gestion de projet à ce jour là, et d'interagir entre les différents niveaux avec le niveau municipal, avec les différents partenaires industriels, avec le milieu académique. C'était un exemple d'agir un peu à l'interface pour ultimement faire un projet qui était pour la société. Donc, c'est là que tout ce genre de projet là, a pu prendre forme initialement.
C'est ce qui conclut notre entretien, Madison. Votre énergie et votre engagement dans la promotion de la science me laissent croire que votre fascinant début de carrière n'est que la pointe de l'iceberg. Je vous souhaite de belles et grandes réalisations et encore une fois, félicitations pour le prix jeune diplômé qui vous est décerné aujourd'hui.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'était un plaisir d'être ici aujourd'hui.
Cet entretien avec Madison Rilling, lauréate du prix Jeune Diplômé, a été réalisé le 20 février 2024 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.